E alla prochaine. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Abdourahmane Dia à la présentation de cette édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes vendredi 28 octobre 2022. Voici les titres. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda revendique l'attaque d'une base de Tibo au Burkina Faso, tuant une dizaine de soldats et libérant une soixantaine de prisonniers. Au Togo, plus de 4000 personnes déplacées dans le nord à cause de la propagation des attaques djihadistes dans la région. Puis les autorités nigérianes renforcent la sécurité dans le pays après l'alerte de Washington sur les risques d'attentats. Dans une dizaine de minutes, l'actualité économique dans la Minute Éco et en sport, Yacouba Ouédraogo nous parlera de la décision du parquet espagnol de retirer ses accusations de fraude fiscale contre Neymar. Mais tout de suite, le journal. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque perpétrée lundi contre une base militaire de Djibo dans le nord du Burkina. Cette alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda soutient avoir aussi libéré une soixantaine de prisonniers lors de l'attaque. Le point avec Nani Talani.
Le GSIM affirme avoir tué 10 soldats et libéré 67 prisonniers. Plus de 400 armes légères ont également été emportées par les djihadistes lors de cette attaque, indique un communiqué authentifié et traduit par un organisme américain spécialisé dans la surveillance des organisations djihadistes. Lundi matin, le 14e régiment de Djibo avait été attaqué par des hommes armés. 10 soldats avaient été tués et une cinquantaine blessés, selon l'armée burkinabé, qui avait indiqué avoir tué 18 terroristes dans des opérations de ratissage. La ville de Djibo est soumise depuis 3 ans à un blocus des djihadistes qui ont coupé les principaux axes imminents en faisant sauter des ponts. Le 26 septembre, un convoi de ravitaillement à destination de Djibo avait été attaqué par des hommes armés, faisant 37 morts, dont 27 militaires. L'attaque avait aussi été revendiquée par le GSIM. Selon l'ONU, la situation sécuritaire et alimentaire dans cette ville est alarmante. Le Burkina Faso vient de lancer un recrutement de 50 000 volontaires, des supplétifs civils qui vont renforcer l'armée pour la lutte antiterroriste. Il s'est aussi doté d'un gouvernement appelé de combat, dont l'un des objectifs principaux reste la sécurisation du territoire.
La propagation des attaques djihadistes sur le territoire togolais à partir du Burkina Faso a fait plus de 4000 déplacés dans le nord du Togo depuis le début de l'année. C'est ce qu'affirme Lomé. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après Akuda Ayiwandan, porte-parole du gouvernement togolais, 789 ménages représentant plus de 4000 déplacés ont été identifiés. Parmi ces personnes déplacées figurent des Burkinabés ayant fui les attaques djihadistes perpétrées dans leur village. L'Agence nationale de la protection civile avait recensé en juin, dans l'extrême nord du Togo, plus de 600 Burkinabés venus de Madjouari, dans le sud-est du Burkina. M. Ayiwandan affirme que le gouvernement fournit des vivres à ces ménages, ainsi qu'un soutien psychologique et éducatif, surtout pour les élèves déplacés. Il soutient que l'objectif, c'est d'abord de sécuriser ces personnes, de faire en sorte qu'elles continuent de vivre dans certaines conditions décentes et de favoriser à terme leur retour dans leur localité d'origine. Le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières, depuis novembre 2021, dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des groupes djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière, au Burkina Faso.
Au Nigeria, la police a annoncé avoir renforcé la sécurité dans tout le pays en raison d'un risque accru d'attaques terroristes sur Abuja. Les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter la capitale nigériane, Mohamed Oumfa.
Dans un communiqué publié jeudi soir, la police nigériane a demandé à tous ses hauts gradés de renforcer la sécurité dans leurs juridictions respectives, en particulier dans le F-City, le territoire fédéral de la capitale. L'inspecteur général de la police, Ousmane Al-Kalibaba, a exhorté les habitants de l'agglomération de 6 millions d'habitants à rester vigilants et à signaler à la police tout événement et toute personne suspect ou anormaux. Si la nature de la menace reste inconnue, les habitants du F-City sont en état d'alerte depuis dimanche après la mise en garde de plusieurs ambassades occidentales conseillant à leurs citoyens de limiter leurs déplacements dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Jeudi, le département d'État américain a annoncé avoir ordonné à ses employés non essentiels en poste à Abuja de quitter la ville. L'ambassade des États-Unis au Nigeria indique de son côté que l'ordre s'applique aux familles de tous les fonctionnaires américains sur place. D'autres pays, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, ont émis des avertissements similaires.
L'Afrique du Sud a aussi assuré ce vendredi que la sécurité serait maximale ce week-end à Johannesburg après une alerte américaine concernant un risque d'attentat demain samedi. Ce week-end, nous avons 4 événements majeurs, ont dit les autorités, et que les mesures sont prises. Au Kenya, la justice a décidé de poursuivre des policiers pour crimes contre l'humanité dans des violences post-électorales en 2017, annonce faite ce vendredi par le procureur qui en dénonce des attaques systématique contre la population civile. Selon le bureau du procureur, il s'agit des premiers cas de crimes contre l'humanité inculpés en vertu du droit national kényan. L'Organisation mondiale de la santé fait état d'une forte augmentation des cas de paludisme dans la région éthiopienne du Tigré où rebelles et forces gouvernementales s'affrontent depuis près de 2 ans. Et puis au Maroc, une trentaine de migrants en situation irrégulière ont été arrêtés par la police alors qu'ils tentaient d'embarquer pour l'Espagne depuis les côtes marocaines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le mari de la chef de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été violemment attaqué aujourd'hui au domicile du couple. Paul Pelosi, 82 ans, a été transféré à l'hôpital où il reçoit d'excellents soins, a précisé son porte-parole. Les motivations de celui qui l'a attaqué font l'objet d'une enquête. Plusieurs personnalités politiques, dont le président Joe Biden, ont exprimé leur soutien à la famille Pelosi. À moins de 2 semaines des élections de mi-mandat, plusieurs élus américains ont sonné l'alarme contre le regain de violence les visant. L'ancien président américain Donald Trump s'est réjoui ce vendredi que Twitter soit entre de bonnes mains après le rachat du réseau social par Elon Musk. Twitter est désormais entre de bonnes mains et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social. Donald Trump n'a pas dit s'il prévoyait de retourner sur la plateforme dont il a été banni après l'assaut du Capitole en 2021. Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle opposant le président Jair Bolsonaro à l'ancien président Lula da Silva, un duel qui polarise l'électorat brésilien. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le leader de gauche et ancien syndicaliste Lula da Silva, qui a dirigé le Brésil à 2 reprises, a remporté le premier tour, mais pas la majorité absolue pour éviter le second tour. Il est en tête des sondages dans ce qui, de l'avis des observateurs, constitue un scrutin critique pour le Brésil. Cette élection n'est pas une querelle entre un homme et un autre, entre une femme et une autre femme, ou entre un parti et autre parti. Cette élection représente la lutte pour la démocratie et contre la barbarie, a déclaré l'ancien président brésilien. Pour sa part, le président Bolsonaro, dirigeant d'extrême droite, a eu un bon score au premier tour et selon les analystes, il a une chance de s'imposer dimanche. Pendant 2 ans, j'ai parlé de Dieu, de la patrie, de la famille et de la liberté. Aujourd'hui, le peuple s'est aussi réveillé à l'importance de la liberté dont je parle, a dit Jair Bolsonaro. Toutefois, le dirigeant brésilien accuse les responsables électoraux de soutenir son adversaire. La religion, l'avortement et les orientations sexuelles sont quelques sujets ayant dominé la campagne électorale, divisant davantage les Brésiliens.
La nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, se rendra pour sa première visite officielle hors d'Italie le 3 novembre à Bruxelles, où elle rencontrera les leaders de l'Union européenne selon un communiqué de ses services. Giorgia Meloni a par ailleurs eu une conversation téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au cours de laquelle l'accent a été mis sur le fort partenariat entre l'Italie et l'Allemagne. Et puis les forces de sécurité iraniennes ont tiré ce vendredi sur des manifestants à Zahedan, au moins après des violences meurtrières ayant fait des dizaines de morts dans cette ville du sud-est, ce qu'a indiqué un groupe de défense des droits humains basé ici aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barche.
Selon une étude du Fonds pour la qualité de l'air, la pollution urbaine en Afrique est élevée et augmente rapidement. L'étude s'est penchée sur la situation à Accra, Johannesburg, Lagos et au Caire. Adopter une approche écologique pourrait sauver 125 000 vies, permettrait d'économiser 20 milliards de dollars et de réduire les émissions de 20% d'ici à 2040. Si rien ne change, la facture financière sera multiplié par 6, estime l'ONG britannique. Au Togo, la plateforme industrielle d'Adéticopé et le mécanisme indicatif de financement agricole ont lancé un numéro vert pour assister les agriculteurs afin d'améliorer leur rendement. Les producteurs pourront notamment s'informer sur les bonnes pratiques agricoles et la météo. Selon le MIFA, cet appui technique devrait permettre d'assurer l'autonomie des agriculteurs en augmentant leurs revenus. Le numéro gratuit 8300 est opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le gouvernement égyptien a annoncé hier que la banque centrale a dévalué la livre de 16% par rapport au dollar pour répondre aux exigences du Fonds monétaire international. Avec la nouvelle dévaluation, la livre a plongé de 46% en 7 mois, passant de 15,6 à 22,75 livres pour 1 dollar. La mesure devrait permettre à l'Égypte d'obtenir un prêt de 3 milliards de dollars du FMI.
À présent, la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Basketball pour commencer, ici en NBA, Luka Doncic plane sur Brooklyn.
Oui, intenable, Luka Doncic a réussi un triple-double à 41 points, 14 passes décisives et 11 rebonds pour guider Dallas au succès à Brooklyn 129-125 après prolongation. Du coup, le prodige slovène de 23 ans est le meilleur scoreur de la Ligue après 4 matchs avec 36,3 points de moyenne. De son côté, Stephen Curry s'est fendu de 33 points pour faire gagner Golden State contre Miami 123-110. À Sacramento, les Grizzlies de Ja Morant, 22 points, ont infligé une quatrième défaite consécutive 125-110 aux Kings. Enfin, le Thunder a pris le meilleur sur les Clippers 118-110, privé de Kawhi Leonard, ménagé après une grave blessure à un genou qui l'a éloigné des parquets durant 16 mois.
NBA toujours, les Warriors sont la franchise la plus valorisée.
Selon le magazine Forbes, la valeur des Warriors a augmenté de 25% par rapport à l'année dernière et ils valent maintenant 7 milliards de dollars. Outre la réussite sportive illustrée par le 7e titre de champion de leur histoire, le 4e sous l'ère Stephen Curry depuis 2015, acquis face aux Boston Celtics en juin, les Warriors ont aussi profité du retour à la normale après 2 ans de Covid-19. Les Knicks, en tête des 7 dernières listes de Forbes, se classent 2e avec une valorisation estimée à 6,1 milliards de dollars, suivi des Lakers 5,9 milliards. C'est la première fois de l'histoire qu'un autre club que les Knicks ou les Los Angeles Lakers arrive en tête du classement.
En Espagne, le parquet retire ses accusations contre Neymar et les autres accusés.
Le parquet a retiré toutes ses accusations de corruption et de fraude contre Neymar, ses parents et deux ex-présidents du Barça, Sandro Roussel et Joseph Maria Bartomeu, et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodriguez Filho. Ce procès porte sur les irrégularités présumées ayant entouré le transfert du joueur au Barça en 2013. La justice espagnole cherche à déterminer si la société d'investissement brésilienne, 10, détentrice de 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait au sein du club brésilien de Santos avant son départ à Barcelone, a été escroquée durant ce transfert. 10 affirme que le Barça, Neymar et sa famille, puis Santos, se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et l'escroquer. Le Barça a chiffré le coût du transfert à 57,1 millions d'euros, mais la justice espagnole estime qu'il a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. Le procès doit s'achever lundi.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La plateforme de concertation de la diaspora tchadienne organise aujourd'hui à New York une manifestation pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la situation politique en N'Djamena. Cet événement survient quelques jours après la répression de manifestations au Tchad qui ont fait au moins une cinquantaine de morts, de sources officielles. Mamadou Oumfa a joint Jonabaï Laya, activiste militant des droits de l'homme et porte-parole de la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne.
Je fais partie de la plateforme appelée Non au coup d'État, Non au CNT. La plateforme fait partie de la diaspora militante des Tchadiens des États-Unis. Nous sommes ici en colère. Nous sommes devant le bâtiment des Nations Unies pour dénoncer le mutisme de l'ONU par rapport au massacre. Je pourrais même dire que c'est un génocide en gestation dans notre pays. Des Tchadiens sont tombés sous des balles d'une barbarie soutenue mordicus par la France.
Il y a eu la répression des manifestations le 20 octobre. Cette répression a visiblement alourdi l'atmosphère et crispé l'opposition radicale. Est-ce que le dialogue est encore possible?
Non, le dialogue n'est pas possible. Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont assoiffés du pouvoir et qui ont, avec le temps, montré très clairement leur volonté de se pérenniser au pouvoir. Mais ce qui, là où le bas blesse, c'est la complicité de la France. Parce que dites-vous, en avril 2021, qui était le président de l'Occident qui était allé introniser Kaka? C'était bien Macron. Et depuis lors, la France a conduit la transition confisquée de bout en bout. L'ambassadeur Bertrand Kouchner, c'est lui qui a sommé la société civile. Et il a fait une déclaration devant la société civile pour dire qu'aujourd'hui, si même 10 000 Tchadiens sont tombés, que le régime va continuer à gouverner au Tchad. Écoutez ça. Et nous avons vu au niveau du pré-dialogue de droit que l'ancien ambassadeur, et c'était Bruno, et c'est toujours la diplomatie française qui a conduit cette mascarade qui a eu lieu à Doha et qui s'est terminée par un accord conclu entre même les politico-militaires, soi-disant politico-militaires qu'on a fait venir de N'Djamena.
Vous manifestez devant le siège des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies?
Nous sommes ici, nous demandons que les Nations Unies prennent des sanctions immédiate contre la gente qui est en train de tuer des Tchadiens par milliers. Nous sommes ici parce que nous sommes fatigués des condamnations. Nous voulons des actions concrètes. Et ces actions doivent être terminées par des sanctions contre la gente.
Un mot peut-être pour les Tchadiens, les 50 morts ou plus, ça peut-être doucher l'enthousiasme des Tchadiens. Vous pensez encore que les Tchadiens auront la détermination de continuer le combat?
Le peuple tchadien est en train de chercher à se libérer. Le peuple tchadien n'a que lui pour se libérer. Vous avez vu, les jeunes sont debout. Le peuple tchadien est un peuple courageux. Oui, ta liberté naîtra de ton courage. Donc nous, le peuple a pris conscience. Et loin de là, cette accalmie-là, je pense que ce n'est pas un recul. Le peuple tchadien est debout et va aller jusqu'au bout. La jeunesse n'a plus peur. Il n'y a que question de temps. Ce peuple est déjà debout et va continuer à se défendre.
C'était Jonabaï Laya, activiste militant des droits de l'homme tchadien, joint à New York.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
manifestation tous azimuts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des manifestants pro-russes se sont rendus au camp Bilazagré de Cambouinsin, en périphérie de la capitale, et ont donné 72 heures à la France pour quitter le Burkina, selon l'agence d'information du Burkina. Toujours à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, d'autres manifestants réclament que soit viré du nouveau gouvernement cinq anciens ministres de l'ancien pouvoir de Paul-Henri Damiba. Deux nouveaux ministres sont aussi contestés, ceux de l'urbanisme Yacouba Dié et du commerce Donatien Nagalo. Yacouba Witraogo a joint à Ouagadougou Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision BF1.
Pour ce qui est du ministre en charge de l'urbanisme, il a été celui-là qui a conduit l'opération 40 000 logements sociaux lancés par le président du Faso à l'époque, Roch Marc Christian Kabore. Le bilan après qui a été dressé était mitigé. Beaucoup de Burkinabés se sont sentis grigés dans cette affaire puisqu'il fallait verser 2 000 francs et à la suite il devait avoir un tirage au sort qui devrait permettre à certains donc d'avoir une parcelle. Et pour beaucoup, justement, les choses ne sont pas passés dans la transparence totale. Et donc, les Burkinabés gardent une image pas tout à fait bonne, de M. Dié, qui est aujourd'hui donc porté à la tête de ce département en charge donc de l'habitat. Il y a effectivement le cas du ministre Dié, mais également le cas du ministre en charge du commerce, le ministre Nagalo, Donatien Nagalo, qui est un ancien, qui était secrétaire général donc dans le syndicat de commerçants, le Sinacombe. De par le passé, sa structure a eu à organiser une opération de collecte de fonds en vue de soutenir justement les commerçants dans leur activité. Et là aussi, c'est une question de bilan qui a été jugée mitigée et qui rattrape aujourd'hui le ministre Nagalo. Certains commerçants estiment qu'il n'est pas la bonne personne pour gérer le secteur du commerce parce qu'il a effectivement été pas du tout clair dans la gestion justement de cette opération de collecte de fonds auprès des commerçants.
Visiblement, aucune enquête de moralité n'a peut-être été faite avant que ces personnes-là soient officiellement proclamées ministres.
C'est à croire que le gouvernement, justement, n'a pas eu le temps de mener une enquête de moralité sur chaque membre du gouvernement appelé à servir aujourd'hui l'État. Et c'est véritablement regrettable, en tout cas pour les Burkinabés, qui, aux premières heures, au regard du discours du capitaine Ibrahim Traoré, ont pensé qu'enfin, il y aura une rupture dans la gouvernance.
Il y a également d'autres manifestants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso qui arborent des drapeaux russes et qui demandent le départ de la France du territoire. Ils donnent même un ultimatum de 72 heures. Est-ce qu'il faut faire un lien avec cette déclaration du capitaine Ibrahim Traoré qui aurait dit qui ne ferait pas appel à Wagner dans la lutte contre le terrorisme?
Ce sont des propos qui ont surpris, en tout cas, les partisans de la révision du partenariat avec la France, parce que, justement, les premiers discours du capitaine Ibrahim Traoré ont rassuré sur le fait, justement, que cette dynamique de diversification du partenariat militaire était engagée. Et donc, cette information venue du sous-secrétaire d'État américain sur le fait que Ibrahim Traoré aurait promis, justement, de ne pas faire appel à Wagner laisse perplexe certains Burkinabés qui étaient dans la rue pour soutenir le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré et qui espéraient justement qu'il y aurait changement de paradigme dans la coopération militaire. Effectivement, c'est une déception. Et donc, pour eux, il est question ici de donner de la voix pour rappeler aux autorités burkinabées qu'il y a des engagements qui ont été pris et qu'il faudrait rester dans cette dynamique.
C'était Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision burkinabé BF1. La Chine pose un risque fondamental pour la sécurité des États-Unis des décennies à venir, tandis que la Russie représente une menace immédiate et vive aiguë pour les intérêts et les valeurs américains. C'est ce qu'a affirmé hier le Pentagone dans sa nouvelle stratégie de défense qui fixe la stratégie de l'armée américaine pour les années à venir. Pour en parler, donc, Nanit Talani a joint ici à Washington Michael Shirkin, il est politologue à 14N Strategies.
La Chine et la Russie cherchent à changer la structuration du pouvoir dans le monde. Il y a, on peut parler d'un pacte américain, c'était d'après la deuxième guerre mondiale, c'était après la guerre froide. Le monde, il y a un certain système qui sert très bien aux intérêts américains, mais aussi aux intérêts de pas mal des amis et partenaires américains, mais c'est assez stable. C'est vrai que c'est dominé par les États-Unis. Et donc, la Russie et la Chine cherchent à changer ça parce que pour des raisons différentes, qui veut réorganiser le monde, soit pour diminuer l'importance des États-Unis, pour donner place à un monde multipolaire, mais plus réalistiquement pour qu'ils soient les plus dominants. Dans le cas de la Russie n'a pas la puissance pour vraiment dominer quoi que ce soit. Mais pour la Chine veut sa croissance économique. La Chine a la capacité de vraiment peser sur le monde d'une façon dominante. On estime que la Russie et la Chine veulent changer le monde d'une façon qui convient aux valeurs américaines, aux intérêts américains. On ne veut pas vraiment que le monde soit refait à leur image. Ils ont un modèle, ils ont une influence que nous estimons d'être malsaine.
Il y a aussi des pays comme l'Iran qui posent un problème de sécurité.
Il y a d'autres pays qui aussi rêvent des mêmes choses comme l'Iran, mais ce n'est que la Chine et la Russie qui ont le pouvoir, la capacité de vraiment faire des grands problèmes. Et c'est la Chine toute seule a la capacité de vraiment changer les choses, de vraiment réorganiser le monde à leur lumière. À cause de la puissance économique, la puissance industrielle et de plus en plus de la puissance militaire. Il faut que j'insiste à ça.
À quelle situation le risque sino-russe peut-il conduire? C'est vrai que vous avez déjà parlé de l'instabilité.
Bon, le risque d'une confrontation directe, et ça existe, surtout avec cette question de Taïwan, mais il y a un risque de guerre par procuration, c'est ça. Ça s'est fait déjà au Vietnam, en Afghanistan, etc. Et ça peut se faire. Ça, c'est très dangereux. Mais il y a aussi le fait que c'est une question de rivaliser le soutien ou la position d'autres pays et d'essayer de les influencer. Et ça peut avoir aussi vraiment un effet néfaste pour le reste du monde. Si tout le monde est presque obligé de choisir d'un côté à l'autre, aussi cette rivalité s'exprime dans un corps pour les ressources. Et ça se fait déjà en Afrique, par exemple. Il y a encore pour les ressources minérales qu'on estime sont d'une valeur stratégique. Des ressources comme le lithium, le cobalt, les métaux qu'il faut pour faire des trucs de technologie.
Voilà, c'était le politologue américain Michael Shurkin. Et on reste ici aux États-Unis. Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a tenté de rassurer les annonceurs hier jeudi en affirmant qu'il voulait permettre à toutes les opinions de s'exprimer sur le réseau social. Cependant, il a souligné qu'il ne voulait pas en faire une plateforme infernale où tout serait permis. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Kigali, au Rwanda, l'analyste politique Albert Rudatsimburwa, très présent sur Twitter et a beaucoup d'abonnés.
Je crois que le fait que même Elon Musk rachète ça, la question qui pourrait être, c'est qu'il va changer les règles, s'il y aura d'autres choses qui vont s'ouvrir, je ne sais pas. Mais moi, ça me rappelle plutôt que c'est dommage que, par exemple, on n'ait pas ce genre de plateforme que les Africains pourraient avoir, par exemple, d'autres gens. Tout reste monopolisé, en fait, par des gens qui ont, je dirais, une même idéologie politique et sociale économique.
Et pourtant, vous avez beaucoup d'abonnés, vous êtes très présent sur ce réseau social.
Oui, bon, c'est parce que c'est pratique. Mais je veux dire, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre choix non plus pour Twitter est là. Il n'y a pas vraiment une autre application qui donne la même chose. On ne peut pas, de toute façon, ne pas reconnaître Twitter comme une plateforme qui contribue aussi dans les opinions de gens qui ne sont pas nécessairement à côté de vous. Et je dirais, bon, moi, vous parlez de moi, mais je veux dire, un des caractères les plus fameux sur Terre, c'est quand même Donald Trump, qui a fait que, je crois, ça a boosté même le Twitter.
Dans un message spécifiquement adressé aux entreprises qui achètent de la publicité sur le réseau social, Elon Musk dit qu'il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence, et souligne que Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous où tout peut être dit sans conséquence. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Dans le principe, tout ça sonne très bien. Et même Twitter le dit déjà, avant Elon Musk, j'ai vu sur Twitter qui se sont fait quand même arrêter, que les comptes ont été soit suspendus, et d'autres même suspendus éternellement, syndicalement éternellement. Je vais vous dire aussi, mon compte a été suspendu 3 fois pour quelques heures. Ils m'ont dit que je pouvais faire appel. Il n'y a jamais eu de vrai retour. Je me sens tout petit vis-à-vis de cette application et quelqu'un comme moi, il est énorme. Et ça nous rappelle que c'est comme si on nous disait qu'on est une seule humanité. Et dans l'humanité, je vois qu'on a quand même une chaîne alimentaire qui fait qu'il y en a qui sont en haut et d'autres en bas.
C'était l'analyste politique rwandais Albert Rudatsimburwa. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, Abdourahman Dia, mise en onde Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.